Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Le meilleur de séances radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Ça tourne.
Actualité.
Faut pas de vraies informations pour vendre un journal.
Je vais envoyer les actualités, vous venez les voir dans la cabine ?
Non, je n'ai pas envie de voir du cinéma.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexis Yomet et c'est bien votre Super 16 du vendredi qui démarre votre week-end tant attendu avec ses 16 minutes d'actu ciné hebdo. Je retrouve cette semaine donc Antoine Corté de bulledeculture.com. Bonjour Antoine.
Salut Alexis.
Eh oui, car étant à Lyon la semaine dernière, je ne pouvais que t'entendre et maintenant que je te vois, bah...
Tu es subjugué.
Fou, on irait peut-être pas jusque là. Enfin bref, les trois mots de l'actu sont Polanski, Spirou et Fantasio et Comeback. Nous finirons ensuite cet épisode avec le Quoi voir ce week-end, avec donc deux films à ne pas manquer qui sont sortis ce mercredi. Super 16, saison 2, épisode 5, ça commence maintenant. C'est presque devenu un marronnier dans l'information cinéma, je dois dire. À l'occasion de la sortie de son prochain film D'après une histoire vraie, le cinéaste Roman Polanski sera célébré donc à la Cinémathèque française avec une rétrospective consacrée à sa carrière. Donc bien évidemment, donc à chaque fois qu'on met en avant ce cinéaste, il y a toujours une levée de bouclier contre lui, que ce soit d'associations féministes ou même d'internautes de tous bords, avec des pétitions qui demandent soit de le mettre de côté ou d'annuler les événements, puisque à chaque fois revient donc son histoire, même son affaire, où il a été condamné aux États-Unis pour une affaire de viol sur mineur en 1977. Et cette histoire reste clouée à sa personne, puisqu'il avait fui les États-Unis pour échapper à la justice. Et donc cette affaire traîne toujours, puisque à chaque fois, les États-Unis essayent de le récupérer, Antoine.
Ce qu'il faut dire, effectivement, c'est que Roman Polanski, il est en quelque sorte extradé des États-Unis depuis X années.
Mais il est exilé, il peut non plus mettre les pieds
sur tous les territoires où qui ont un accord d'extradition avec les États-Unis. C'est d'ailleurs pour ça que il y a quelques années, en 2015, il s'était rendu dans un festival en Pologne, me disais Alexis, où la Pologne a un accord d'extradition avec les États-Unis. Et puis là, tout de suite, il y avait la police polonaise qui l'attendait à la sortie de l'avion et qui dit mon coco, tu ne repars pas de Pologne, on va voir ce qu'on peut faire pour te ramener aux États-Unis.
Et donc, évidemment, il y a eu les levées de boucliers de toutes les associations féministes qui ont demandé d'annuler l'événement. Un petit peu pour la première fois, il y a la Cinémathèque qui doit envoyer un communiqué, qui nous a donné un communiqué mercredi, en disant non, on maintient, quoi qu'il arrive, la rétrospective. Alors, il y a quelques extraits justement par rapport à ça. Ils disent, fidèle à ses valeurs et à sa tradition d'indépendance, la Cinémathèque n'entend se substituer à aucune justice, ou encore, ils pensent que c'est de la censure pure et simple de supprimer l'événement. Nous ne décernons ni récompense ni certificat de bonne conduite. Ils utilisent comme prétexte le pianiste qui était Palme d'Or en 2002, l'Oscar du réalisateur, et puis aussi récupérer 7 Césars. Quand même. Et puis même à la fin, c'était un peu fin de non-recevoir. C'est nous n'avons donc rien à débattre avec des gens qui exigent de la Cinémathèque française l'abandon de sa mission fondamentale, montrer inlassablement l'œuvre des grands cinéastes. Est-ce que c'est une bonne décision et est-ce que c'est une bonne réponse?
Alors moi, je soutiens la Cinémathèque sur ce coup parce qu'effectivement, on ne va pas juger l'homme, on va juger son œuvre et ce qu'il a fait. D'ailleurs, il va y avoir en plus une actualité avec son nouveau film qui sort
d'après une histoire vraie.
Donc du coup, ça colle complètement avec effectivement une logique d'accompagnement de ce film-là. Donc du coup, c'est pas une décision d'opportunité de faire une rétrospective. Tiens, Polanski, ça s'accompagne quand même dans une logique réfléchie. Et donc du coup, je pense que la décision des cinémathèques de maintenir cette rétrospective est intelligente.
Bah, surtout que ça fait un an que c'est en préparation, même plus d'un an que c'est en préparation, puisque pour rassembler tous les films, tout ça, c'est tout un bordel. Donc, c'est minimum un an de préparation. Et ils expliquent aussi dans leur communiqué qu'ils ont eu beaucoup de réservations, donc comme quoi ça allait drainer beaucoup de public. Mais moi, je suis moyen chaud sur la réponse. Je trouve que la réponse, elle est super froide, parce qu'en gros, c'est nous n'avons donc rien à débattre avec des gens qui exigent de la cinémathèque française de l'abandon. Enfin, c'est une réponse un petit peu hautaine.
Ils sont un peu excédés, effectivement.
Oui, je comprends, mais ça va pas apaiser la situation non plus.
Je pense aussi que c'est une réponse de passionné, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on brandit Roman Polanski, il y a un certain nombre d'oppositions, ce qui est bien, ce qui est mal. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'arrive plus à voir Roman Polanski en tant que cinéaste. Et c'est peut-être ce qu'ils essayent de nous expliquer là, en disant, regardez, c'est quand même une personne qui a eu une Palme d'Or, qui a eu des Oscars, qui a eu des Césars, c'est pas non plus le lambda qu'on viendrait
comme ça,
voilà, et puis, qu'on viendrait livrer et qu'on viendrait mettre sur un piédestal.
Voilà, parce qu'il y a même certains commentaires qui disent que ouais, on pourrait maintenir la rétrospective mais sans l'inviter. Bon, ça serait quand même bizarre de faire une rétrospective d'un gars sans l'inviter. Donc en fait, nous vous proposons carrément un sondage sur Twitter à cette occasion. Donc la Cinémathèque a-t-elle eu raison de maintenir sa rétrospective? On attend les résultats avec impatience.
Faut pas pousser, ça va se débloquer. Mais quelle andouille! Hé, dis donc, je vous entends derrière la vitre!
Quand le sort s'acharne, pas de veine pour le pauvre Franquin qui voit son héritage se faire défoncer comme pas possible sur grand écran. Donc après les différents films Schtroumpf et le petit Spirou de Nicolas Barry qui va quand même dépasser les 3 millions d'entrées, là on approche bientôt du cap, on va bientôt retrouver donc cette fois le grand Spirou aux côtés de Fantasio dans Les Aventures de Spirou et Fantasio, quelle surprise dans le titre, réalisé par Alexandre Coffre, à qui l'on doit déjà une pure affaire, le volcan, le Père Noël, et donc on a découvert la bonne annonce et...
c'est pas génial. Le grand souci, je pense, avec ces adaptations, c'est qu'ils n'arrivent pas à se détacher de l'art graphique bande dessinée. C'est-à-dire en fait que plutôt que de créer quelque chose et de proposer une nouvelle ils se sentent complètement verrouillés par les bandes dessinées originales et du coup
en même temps t'as les personnages,
pas
t'as
avoir de créativité. Oui, mais par exemple je prends Tintin ou je prends Astérix, effectivement il y a cette filiation qu'on sent dans Astérix. Pour autant il y a une certaine démarcation, notamment avec Alexandre Astier, il vient mettre un peu d'humour à la Kaamelott et ce genre de choses, donc il y a une filiation mais sans être parqué dans une volonté d'être forcément fidèle à l'œuvre originale. Alors que là j'ai l'impression que ce qui concerne Spirou, on n'arrive pas à faire quelque chose de créatif.
Moi je vais m'opposer à toi, je trouve qu'ils ont créé quelque chose mais de très moche quoi, c'est encore plus moche que la BD, parce que encore la BD il y avait au moins un souffle épique quoi, il y avait l'aventure, que là quand tu regardes la bande annonce c'est tout est éclairé de partout, il y a pas d'ombre, on dirait un téléfilm mais à 30 millions de dollars, parce que il y a des effets spéciaux, c'est Sony International Pictures qui produit le film, donc ils ont mis énormément d'argent dans le projet, et tu regardes le truc, c'est catastrophique, même Radzi Bedia qui joue le méchant, on dirait une suite de Double Zéro quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment on peut donner ça?
Après, d'un autre côté, ils ont voulu aussi, j'ai l'impression que c'est typiquement les Américains qui ont voulu faire leur film français un peu à la Universal et Babysitting. Donc du coup, ils ont voulu dire, tiens, on va prendre un casting, pas forcément le plus éclairé et le plus éclairant.
Ah, parce que c'est Thomas Oliveres qui joue Spirou, Alex Luz qui joue Fantasio et Christian Clavier qui joue le Comte de Champignat. Ouais. Alors que le rôle aurait été parfait pour le regretter Jean Rochefort, malheureusement.
J'ai l'impression que il n'y a pas eu un choix esthétique et une réflexion là-dessus. J'ai l'impression que ils ont voulu faire populaire, très américain, mais que forcément avec nos valeurs françaises, ça ne marche pas forcément, ça va pas envoyer du lourd. Quoi.
J'ai un ami qui avait écrit que en fait c'est juste une comédie française pourrie de base, mais avec les personnages qui s'appellent Spirou et Fantasio quoi. Est-ce qu'on en est là?
Peut-être.
Donc sachant qu'en plus le Franquin Cinematic Universe, il va encore s'étendre puisqu'il va y avoir Gaston Lagaffe qui est réalisé par PEF, alias Pierre-François Martin Laval qui a réalisé Les Profs 1 et 2.
Mais lui il est pas mal. Lui il a des propositions dans ses films. Peut-être que ça va être au moins ça va être drôle. Bah, je suis sûr qu'on va rigoler.
C'est Théo Fernandez qui jouera justement Gaston. Bah, Pef jouera aussi dedans. Il jouera Prunel. Il y aura Arnaud Ducret, Jérôme Commander, Alison Wheeler. Donc, j'ai pas trop où ça peut aller puisque là, ça change un petit peu le contexte puisque ça remonte à quelques années, Gaston Lagaffe. Là, cette fois, c'est un jeune qui bosse dans une start-up du côté de Marseille, une boîte qui s'appelle Au Bon Petit Coin et qui va être rachetée par un certain de Messmaker. Enfin, ceux qui connaissent déjà le truc. On vous mettra d'ailleurs sur notre Twitter l'affiche promo qui avait été diffusée la journée des distributeurs en fin septembre. Donc, pour les courageux, Spirou et Fantasio d'Alexandre Koff, ça sortira le 21 février 2018. Je sais pas si on en parlera dans les conseils à voir ce week-end. Voilà.
Dans 2 ans, au revoir, monsieur, dame. Je serai à l'échelon 7. Les mômes sont élevés. J'ai ma cabane en Dordogne. La retraite, faut la prendre jeune.
Faut surtout la prendre vivant. C'est pas dans les moyens de tout le monde.
Il ne revient pas d'entre les morts, non, mais seulement de la retraite, même s'il aurait pu. Je parle bien sûr de John Carpenter, qui revient sur les plateaux, pas de cinéma, mais pour réaliser au moins le pilote d'une nouvelle série adaptée d'un roman graphique dont il est également l'auteur, qui sera intitulé Tales for a Halloween Night, donc les contes pour une nuit d'Halloween, qui était donc un roman graphique qui va devenir donc une série télé, qui est donc roman graphique en 2015. Ça faisait depuis 2010 qu'il était parti à la retraite après The Ward. Donc forcément, il a un petit peu vieilli, il a fait des petits parcours musical. Et en plus, cette semaine, bah, qui on a d'autres qui est revenu à l'AREA?
Eh ben ouais, Steven Soderbergh.
Pour Logan Lucky, qui est sorti mercredi.
Alors, il avait promis, lui, d'arrêter. Et puis
Le cinéma.
Le cinéma, effectivement. Et puis, là, retour en grande pompe, avec en plus un casting Daniel Craig,
Channing Tatum,
Cathy Holmes. Donc, du coup, c'est vraiment le Ocean's 13 des voitures.
Et pourtant, c'est un truc chez les rednecks, hein, c'est pas...
Ah ouais. Et donc, alors qu'il avait promis qu'il arrêtait, eh ben non, il est reparti, l'appel du cinéma était beaucoup plus fort, et voilà, je pense que du coup, on n'en est pas à son dernier film pour le coup.
Bah même Hayao Miyazaki au Japon qui avait fait Le Vent se lève et qui avait dit qu'il arrêtait, finalement il va faire quand même un court-métrage qui va s'appeler Boro la petite chenille. Donc comme quoi, la retraite d'un artiste, c'est jamais ça.
Alors il y a plein d'exemples. Par exemple, moi je me souviens de Luc Besson il y a quelques années qui, après Arthur et les Minimoys, avait dit c'était mon dernier, j'arrête. Et puis bah finalement on a vu qu'il a pas du tout arrêté.
Bah même Valérian, il s'arrêtera pas là.
Ah bah non, évidemment. Il y a plein par exemple Sean Penn qui, après Harvey Milk, avait avoué qu'il avait été au bout de sa carrière. Donc là, encore une fois, on a vu que ça a pas du tout mis fin. Je me souviens de Ben Affleck aussi, qui après Gone Baby Gone nous a dit c'était mon dernier film. Et puis c'est là, finalement, il a bien fait de pas arrêter, lui, pour le coup, parce qu'il a explosé.
Il y a eu Argo, tout ça, enfin voilà.
Et puis je pourrais donner plein d'autres exemples, mais il y en a un, et là je pense que là non plus ça va pas tenir, c'est Quentin Tarantino qui nous a dit 2 films et puis c'est fini.
Ouais.
J'ai un doute. Franchement, on va voir, mais je pense qu'il va y en avoir 2 films peut-être, mais qu'il va y en avoir peut-être 10 encore.
Enfin bon, bref, avant qu'on devienne même nous-mêmes trop vieux pour ces conneries, passons tout de suite au Quoi voir ce week-end. Donc bonne question, quoi voir ce week-end, Antoine? Toi, tu as, je crois, choisi la leçon de classe de Yann, je te laisse prononcer le nom de famille.
Jan Regbjet, voilà, un tchèque. Donc en fait, de quoi ça parle? Donc c'est dans les années 80, en plein boom communiste, on a une institutrice qui tient une classe et en fait qui est complètement manipulatrice et qui fait du chantage auprès des élèves mais également auprès de leurs parents, c'est-à-dire que on lui rend des petits services contre des petites réponses au contrôle du lendemain.
Ça reste pas trop sexuel?
Non, c'est pas du tout sexuel, mais ça montre quand même l'assise et l'importance à cette époque, de toute façon en Tchécoslovaquie, de l'institutrice et du corps professoral. Et surtout aussi, ça montre l'ancrage du Parti communiste dans la population et comme quoi le milieu social middle class, j'ai envie de dire, est complètement happé par un système qui comprend pas et qui subit. Donc du coup, l'institutrice, la leçon de classe, c'est très satirique, c'est assez drôle, parfois dramatique, mais surtout ça nous montre un contexte hyper intéressant de ces années-là en Tchécoslovaquie. Voilà. Et alors, et toi Alexis, qu'est-ce que tu as choisi? Même si je pense que tu as choisi un de mes préférés aussi.
Voilà, c'est le nouveau film d'Albert Dupontel, j'en ai pas arrêté d'en reparler dans toutes les émissions Super 16, c'est Au revoir là-haut, donc qui est adapté d'un roman qui avait eu donc le Goncourt. Forcément Dupontel, il s'est un petit peu lâché au niveau de l'histoire, il a assagi un petit peu sa mise en scène qui souvent allait un petit peu partout, et là il adapte un roman qui est juste après la Première Guerre mondiale. C'est pas que dans les champs de bataille, même si la bande annonce peut faire penser le contraire. Non, c'est le truc dans La Belle Époque, c'est un film à costume, ça raconte énormément de choses sur comment on survit à la guerre, comment on crée une vengeance qui est à la fois lyrique, poétique, tout en étant très dur dans le drame. Le casting est extraordinaire, même si j'ai une petite réserve sur Laurent Lafitte qui est un peu trop dans le côté méchant à moustache, mais tous les autres sont extraordinaires. Même Dupontel, qui devait pas forcément jouer dedans, joue dedans et joue extraordinairement bien. Donc Au revoir le haut, j'espère qu'il va cartonner, parce que il y a des idées de mise en scène qui sont folles. Même la façon dont il filme les tranchées, il arrive à trouver de nouvelles manières de les mettre en scène. Gaumont, ils ont mis énormément de sous là dedans donc j'aimerais vraiment que ce film là fonctionne. Ça me redonnerait foi envers le cinéma français, contrairement à Spirou et Fantasio. Super 16, c'est fini pour cette semaine. C'était encore un plaisir de vous retrouver. Antoine Corté, tu es sur bulledeculture.com et moi sur clownweb.net. Super 16, c'est à écouter sur Séance Radio, mais aussi à réécouter en podcast sur SoundCloud, iTunes et tous les agrégateurs. N'hésitez pas à nous laisser vos conseils, vos avis, vos envies directement dans les commentaires. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, pour un nouvel épisode de Super 16. Bon week-end à tous.
Et ben bon week-end.
Ça tourne.
Actualité.
Faut pas de vraies informations pour vendre un journal.
Je vais envoyer les actualités, vous venez les voir dans la cabine ?
Non, je n'ai pas envie de voir du cinéma.
Du lundi au vendredi sur Séance Radio, retrouvez la séance live avec Betty Mourao.
Et on part comme promis du côté d'Hendaye pour la 5e édition du Hendaye Film Festival. Et pour nous en parler, j'ai le plaisir de recevoir sa directrice, Angela Merias. Bonjour Angela.
Bonjour.
3 heures de direct avec des invités, des reportages, des immersions.
En tournage, puisque toute l'équipe du film Tous les dieux du ciel nous ont accueillis voilà, à l'abbaye de Royaumont.
L'actu des sorties ciné, les coups de cœur des chroniqueurs.
Bah, c'est prometteur puisque nouvel univers, nouveaux personnages, beau casting, Forest Whitaker, Angela Bassett également, Dee Serkis, Martin Freeman, nouveaux enjeux.
Vous aimez le cinéma? Alors vous allez aimer la séance live. Tous les jours, de 14h à 17h sur Séance Radio, la radio 100% cinéma.
Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.